chaque année, c'est un défi pour moi d'être aventurier, conférencier. T'sais, l'Antarctique a coûté 150 000. Puis encore l'année passée, c'était 60 000 mon expédition. Puis je me dis, OK, comment je vais faire?
Combien de kilomètres t'as fait ta dernière journée?
J'ai fait 627 kilomètres en 25 heures. Quand ça fait 7 jours que t'as pas mangé, puis que tu fais 12 heures de sport par jour, c'est pas loin d'être souffrant. Je suis tellement profond en Antarctique là, que je réalise que si je veux retourner à la maison parce qu'il y a un problème, je serai pas là en 3 semaines. Mm-hmm. Puis il y a plein de monde qui m'ont dit, tu réussiras pas. Puis il y a du monde qui m'ont dit, tu vas mourir.
Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Dion. Fred, c'est l'aventurier préféré de ton aventurier préféré. Il a traversé l'Antarctique en ski, atteint le pôle intérieur de l'Amérique du Sud, couru 33 marathons en 7 semaines. Il s'est fait dropper au Yukon les yeux bandés et devait retrouver la civilisation et plein d'autres aventures vraiment hot. Salut Fred, ça va?
Salut!
Je suis vraiment content de recevoir parce que ça fait longtemps que je veux te recevoir. Puis à chaque fois que je recevais des aventuriers ou je parlais des aventuriers, ils me parlaient de toi. Mm-hmm. Je suis vraiment content. Comment ça va en ce moment? Comment tu te sens?
Ça va très bien. Je suis heureux. J'ai des projets. Ce que je fais dans ma vie a du sens. On est l'automne. Mm-hmm. Moi, j'ai besoin de lumière.
Okay.
Là, j'ai moins de lumière. Fait que ben là, je pars en expédition dans 2 semaines puis je m'en vais en Afrique. Fait que ça va être...
Nice. Puis ça va faire quoi en Afrique?
Je m'en vais descendre le fleuve Zambèze. Pour ceux qui connaissent la rivière, la Zambésie, c'est la rivière d'eau vive la plus spectaculaire probablement au monde. Puis malheureusement, dans 2 ans, il y a un barrage qui se fait, puis toutes ces rapides-là vont être noyées. Mm-hmm. Donc, c'était comme ma chance de le faire. Puis c'est à cause des images que j'ai vues sur cette rivière-là que maintenant, je fais de la rivière, mm-hmm. puis que je suis aventurier.
Ah ouais?
Fait que pour moi, c'est comme de boucler la boucle, puis d'y aller au moins pour mm-hmm. pouvoir avoir ma chance.
Puis, mais cette rivière-là, est-ce qu'en anglais, c'est la Zambezi River?
Ouais.
Ça, j'en ai entendu souvent parler parce qu'il y a Forrest Galante. Je sais pas si c'est qui cet aventurier-là.
Ça me dit quoi, mais pas
en plus. Il vient de l'Afrique du Sud, je pense qu'il y a un grand... Il est sud-africain, mais maintenant, il habite aux États-Unis. Puis, il y a comme un show vraiment populaire qui s'appelait... ça s'appelait comment déjà? En tout cas, c'est Instinct Animal. Fait qu'il essaie de trouver des animaux qui étaient comme... éteint, genre, par la science.
Ouais.
Il essaie d'y retrouver. Fait qu'en tout cas, il parlait souvent de cette rivière-là parce que je pense que lui, il a grandi sur cette rivière-là puis il disait que c'était magnifique. Puis j'ai vu ce projet-là qu'il allait mettre des barrages, c'est
ouais,
ça?
Ouais.
Qui est désastreux. T'sais.
Ben, c'est l'Afrique. On comprend mm-hmm. qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui descendent ces rapides-là chaque année ou que ce soit reconnu mondialement. Est-ce qu'on peut leur reprocher de vouloir faire de l'énergie, de se développer, de... Mm-hmm.
Non, c'est ça.
Je sais pas. Moi, une des lois de la nature, c'est s'adapter ou disparaître. Aller voir ça pendant que c'est le temps, c'est s'adapter. Mm-hmm. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'on devrait nous reproduire ça au Québec? Je pense qu'on est capable de faire des bons choix. Mm-hmm. Mais voilà. Bon. On va aux Zambésie, puis je suis content.
Très hot. Très, très fun. Ça va combien de temps?
Ça va être 2 semaines et demie.
OK. Très hot. Puis, est-ce que ça a un rapport à ton projet de rejoindre les pôles intérieurs ou c'est pas la même chose?
C'est un repérage.
OK.
Parce que j'ai le pôle de l'Afrique à faire. Mm-hmm. Parce que je vais descendre le Nil Blanc en Afrique et je vais avoir à faire face aux crocodiles, aux hippopotames, aux lions, aux éléphants. C'est une faune que je connais pas. Mm-hmm. Donc là, Zambèze, on va avoir le même genre d'animaux. Il nous oblige un gardien armé avec nous pour une section.
OK.
Mais ça, j'imagine, puis tu connais Guillaume Dulude, oui. qui se connaît très bien dans ce genre d'animaux-là, oui. tu sais, puis on a eu un peu des discussions avec ouais. Guillaume, mais j'imagine que c'est un peu comme chez nous, où est-ce que quand tu vas dans le bois, il y a plein de monde qui ont peur des ours, mais en fait, l'ours, c'est pas un prédateur de l'homme. Tu sais. Mm-hmm. Le loup n'est pas nécessairement non plus un prédateur de l'homme, mais ça mm-hmm. peut arriver. Il y a des codes à savoir. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est un repérage.
OK. Vraiment intéressant. Puis, peux-tu expliquer un peu ce projet-là que toi, que j'ai nommé, mais sans contexte, d'aller rejoindre le pôle intérieur? Tu peux-tu juste un peu expliquer aux gens qui ne savent pas c'est quoi ton projet?
Les pôles d'inaccessibilité, la notion de pôle d'inaccessibilité, c'est l'endroit le plus loin des frontières d'un territoire. Dans ce cas-ci, moi, c'est les 7 continents. Donc, c'est le milieu géographique.
Okay.
J'ai fait l'Antarctique en 2015. c'est une bonne nouvelle pour moi parce que j'ai fait un des plus difficiles puis un des plus chers.
Bon, OK, en partant.
En partant. Après ça, je me suis dit, hey, quelle belle formule parce que je suis un aventurier multidisciplinaire. Okay. Je ne fais pas que du kayak, que de la montagne ou que de la rivière. Je suis dans toutes les disciplines, puis j'aime ça varier, j'aime ça apprendre des nouvelles choses, puis chaque discipline fait de moi un meilleur aventurier dans d'autres disciplines. Tu sais, je suis devenu meilleur alpiniste quand je me suis mis à faire des ultra-marathons de 24 heures de course. Okay. Je suis devenu un meilleur kiter après avoir fait du parapente, avoir volé avec les nuages. Je comprends. Dans ce cas-là, c'est le milieu qu'il faut rejoindre. Et ce qu'il y a de le fun, c'est que c'est moi qui choisis le chemin pour se rendre, la discipline aussi. Ça me permet de visiter tous les continents parce qu'il y a de plus beau à visiter, de sortir de la boîte avec un projet qu'aucun aventurier n'a jamais réussi sur Terre. Y en a qui ont commencé à faire quelques pôles. On est quelques-uns dans la compétition. Puis, encore plus important que ça, le centre d'un continent, c'est pas extraordinaire. Tu sais, quand j'ai fait l'Amérique du Nord, l'automne passé, c'est dans le fond d'une vallée en arrière d'une ferme. Okay. Tu sais, c'est pas...
Fait que t'arrives là pis t'es comme... Bon, ben...
Ben là, maintenant, ils ont mis une tour de métal.
Ah, OK.
Oh, oui. Avant, c'était une pancarte sur un arbre, tu sais.
Okay.
Mais c'est pas intéressant. Ce qui rend l'aventure intéressante, c'est le chemin. Et c'est mon combat. Moi, je dis aux gens, osez l'aventure, passez à l'action dans vos défis, dans vos projets. Mais sache que quand tu vas atteindre ton objectif, ce ne sera pas la plus belle journée de ta vie. Puis, by the way, tu n'es même pas garanti d'atteindre ton objectif. Ouais. Donc, raison importante de profiter du chemin. Est-ce que ta destination a du sens pour toi? Est-ce que chacun de ces pas-là, tu les fais de ton mieux, consciemment, avec plaisir, proactivité. Si la réponse est oui, ben l'atteinte de l'objectif, c'est juste le dernier pas. Mais la réalisation, elle est dans tout le chemin. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient fun. Moi, je vais atteindre le centre de chaque continent. Bon, ça va bien, je n'ai trois de fait.
Ouais.
Probablement quatrième l'année prochaine.
Okay.
C'est un par deux ans. Ce qui me laisse de la place pour d'autres aventures.
Ah, c'est le fun, ça.
Mais je ne suis pas garanti de réussir. Tu sais, le pôle d'inaccessibilité de l'Asie, c'est au nord de la Chine, avec la frontière avec la Russie. Bon, pour y aller, tu n'as pas le choix. C'est soit la Russie ou soit la Chine.
Et oui.
Mais tu sais, on verra.
Ouais.
On verra. C'est pas grave si je ne réussis pas. Mais le chemin, pour l'instant, il est hyper intéressant. C'est un tour du monde pour moi en tant qu'aventurier, dans toutes les disciplines, dans les plus beaux paysages. Puis en plus, c'est un tour du monde pour moi en tant que père, puis mari. C'est-à-dire qu'en famille, ma femme, mes filles vont soit venir me ravitailler dans chacune de mes expéditions ou faire le repérage.
Ah, c'est hot!
Fait que là, on se magasine, prochain pôle, c'est l'Europe. On se magasine un voyage en Europe. Puis je leur dis, ben OK, où vous voulez aller en Europe? Fait qu'on va se faire des petites présentations. Les filles, elles veulent aller en Italie, peut-être l'Espagne, on verra.
Ah, c'est vraiment hot. Puis c'est où le milieu de l'Europe? C'est dans quel pays?
Bon, c'est compliqué l'Europe parce qu'il y a beaucoup de monde.
Ouais.
Chaque pays déclare dans ce coin-là être le milieu en quelque part. Ça dépend de où tu pars, là, tu sais. Est-ce que tu inclus la Méditerranée, tu l'inclus pas, Libye, les bons. Mais grosso modo, en Slovaquie, il y en a trois.
OK.
À peu près 100 km de distance. Fait que je vais faire ces trois-là, tu sais.
OK.
Puis pour le trajet, ben là, j'ai deux trajets qui peuvent être intéressants.
OK. Puis est-ce que tu fais ça dans le but de bâtir un nouveau record du monde, genre Guinness, ou c'est pas vraiment ça, c'est juste pour dire que tu l'as fait?
Ça donne un sens à ma carrière d'aventurier. Ça donne un sens à mon message. Je suis aventurier conférencier. Quel message j'ai goût de véhiculer aux gens? Moi, j'ai goût de dire aux gens, osez l'aventure, passez à l'action. Puis après ça, j'ai goût de leur donner des techniques pour arriver à ça parce qu'il y a clairement des techniques qui peuvent faire qu'on peut être plus heureux puis avoir plus de succès dans la vie. Bon, moi, ça m'intéresse. Ça nourrit mon besoin de paysage. Ça nourrit, tu sais, fait que c'est un projet qui vient s'imbriquer. Mais je suis pas très du style se rendre en quelque part puis laisser une plaque de bronze avec mon nom dessus ou un drapeau. Tu sais, je veux dire, tu es de la terre, tu retourneras à la terre. c'est pas mal ça. Mm-hmm. Je profite du chemin. Puis après ça, ce sera d'autres choses. Je veux dire, mais ça pour moi, pour mes conférences, pour mon message, pour tout, ça vient de sceller quelque chose qui me plaît.
Wow. Je comprends.
Ben, c'est vraiment inspirant, je trouve. Puis c'est ça, dans le fond, le podcast que j'ai tourne beaucoup autour de l'entrepreneuriat. J'aime ça parler de carrière puis d'avoir des entrepreneurs. Mais tu sais, toi, je sais que tu te considères comme aventurier conférencier, mais par défaut, tu es un entrepreneur.
Ouais.
Fait que je trouve ça intéressant de savoir au début comment tu pensais gagner ta vie avec ça. Tu t'es dit, OK, est-ce que tout de suite, tu t'es dit, c'est sûr qu'après ma première aventure, je suis booké partout pour faire des conférences. Puis, tu sais, comment tu voyais ça, ton côté carrière?
Moi, tout a commencé avec un geste de confiance. Je me suis dit, une fois dans ma vie, je vais essayer de réaliser un grand rêve. Puis, il y a plein de monde qui m'ont dit, tu réussiras pas. Puis, il y a du monde qui m'ont dit, tu vas mourir.
OK. Ah, c'est le fun.
Tu te questionnes, tu sais. Puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pas dit non, qui m'ont encouragé dans ce que je faisais, puis d'avoir un entourage assez sain de personnes qui disaient « OK, cool, vas-y, puis si je peux t'aider, puis bon. » Je me suis lancé. J'ai réussi. J'ai atteint mon objectif. J'ai eu une expédition extraordinaire. J'ai eu des aventures extraordinaires. Tu sais, un loup qui m'a pris, un bébé loup qui m'a pris pour son père.
Ça, dans le fond, t'as fait comme 3500 km de kayak, c'est ça, dans le nord du Québec. T'es vraiment 3500 km, ça n'a pas de bon sens. Là. Comment c'est loin? Là?
Ben, c'est un kilomètre à fois.
À fois, exact.
Puis quand t'aimes ce que tu fais, bon, ça se passe bien. Mm-hmm. Puis t'apprends à te connaître en cours de route. Bon, quand je suis revenu de ça, j'y voulais donner des conférences. Moi, j'aime raconter mes aventures, tu sais. Puis, bon, il y a les grands explorateurs ici au Québec qui ont entendu parler de moi, qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Nous, on te veut. » Fait que là, je fais une tournée avec eux.
Okay.
Puis, il y a des grands explorateurs. Ça, c'est des réseaux de conférences en Europe. Il y a d'autres noms. Ça s'appelle « Exploration du monde »,« Connaissance du monde ». Bon, ils m'ont fait venir en Belgique. Puis, j'ai donné 35 conférences en Belgique. Puis, c'était le Québec présenté par un Québécois. Puis après ça, j'ai eu un appel de la Suisse. Fait que là, 50 conférences en Suisse. Puis après ça, j'ai eu un appel de la France. J'ai donné 180 conférences en France.
Mais tout dans le même voyage?
Une tournée.
Étape.
Une année. Ouais, il y a une année, j'ai donné 200 conférences.
Si, bon.
Ça, c'est... Puis tu sais, aventure, là.
Ouais.
C'est pas... pour Connaissance du monde, t'es un producteur. C'est-à-dire que c'est toi qui payes... Pour ceux qui connaissent pas la production, le producteur, c'est celui qui prend le risque.
Ouais.
C'est lui qui fait la publicité, c'est lui qui s'assure du contenu, c'est lui qui s'assure de bon. En France, t'es producteur et c'est une agence qui te book, qui va te booker un calendrier de, mettons, 180 conférences. Puis là, ben, tel jour t'es là, tel jour t'es là, tel jour t'es là. Puis tu sais, c'est tout booké un après l'autre. Puis à chaque ville où tu vas, ben, tu rencontres ton organisateur local, puis il va dire, ben, là, on a une entrevue à la radio, puis des fois, c'est une grosse salle avec plein de monde, puis des fois, c'est une petite salle avec 15 personnes. Quand je me suis lancé dans ce projet-là, moi, j'ai écrit mon livre, j'ai exporté mon matériel de projection, de sonorisation, ma roulotte, mon camion, j'ai tout mis ça dans un container, j'ai chupé ça en Europe.
Okay.
Quand je suis arrivé là-bas, c'était pas facile. Ma première conférence, je savais que s'il n'y avait pas 100 personnes dans la salle, je perdais de l'argent.
OK.
Parce que ça pouvait m'en coûter, en fait.
OK, je comprends.
Quand tu payes les frais de salle, les frais de publicité, tu sais, bon. Première salle, 12 personnes. Ça incluait le propriétaire du cinéma et ses trois enfants.
OK.
Puis là, j'étais à Paris. Ah oui, moi, j'ai exporté ma roulotte en me disant « je vais faire du camping ».
Ouais.
J'ai pas checké trop mon calendrier, mais... Je faisais Paris et sa banlieue. Fait que je suis pas mal tout le temps en ville. Puis, il y a un camping au bois de Boulogne. Dans le temps de Paris, il y a un camping, mais ça coûtait 75-100$ par nuit. Tu sais. Fait que je me suis rapidement rendu compte que si mes salles sont pas pleines, que je vends pas de livres, puis que mes cartes de crédit sont à côté parce que j'ai tout hypothéqué pour pouvoir aller donner ma tournée en Europe, que je pouvais pas me payer le camping du bois de Boulogne. Fait que j'ai erré autour du bois de Boulogne avec mon véhicule pour finalement trouver une rue désaffectée en arrière d'un petit boisé. Puis c'est là que j'ai parqué ma roulotte en me croisant un doigt.
OK.
Là, j'étais un itinérant.
Ouais.
Dis là, t'es pas mal. Puis pendant un mois, j'ai tourné autour de Paris en couchant dans ma roulotte en espérant qu'elle soit pas saccagée le lendemain. Puis quand je l'ai quittée.
Tabarnane!
Puis finalement, ça a décollé après ça parce que là, je suis tombé dans d'autres villes, d'autres tournées. Puis bon, finalement, après 4 mois de tournée. Après 4 mois de tournée, je savais pas si j'allais faire faillite ou pas. Après 4 mois de tournée, j'ai eu mon premier chèque.
Ton chèque de les 4 derniers mois?
Les 4 derniers mois. Fait que j'ai eu 30 000 piastres.
Ah, si tu devais capoter.
Mais là...
Tes cartes de crédit sont loadées. paye-le.
L'aventure, là! Ouais, c'est ça. Fait que, mais bon, ça a confirmé avec le que j'aimais faire des aventures, que j'aimais faire des conférences, j'aimais... Tu sais, bon, fait que pour moi, si c'était possible de vivre ma vie en faisant ça, c'était correct, tu sais.
Puis je trouve ça intéressant parce que là, tu as fait cette aventure-là, tu as rentré dans le réseau de conférenciers, puis là, tu as donné plein de conférences. Tu racontais toujours la même aventure, dans le fond. Mais j'ai reçu, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai reçu Mylène Paquette. Puis Mylène Paquette, elle a fait la traversée de l'Atlantique Nord. Puis c'était son expédition que, même encore aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'étais allé avec elle voir sa conférence. Puis elle parle de cette aventure-là. Toi, tu as considéré de continuer à en faire sans arrêt. Il n'y a pas un moment que tu t'es dit « Ok, celle-là, ça va être ma dernière, puis je vais rouler sur tout ce que j'ai fait avant. » Ça t'a-tu déjà passé l'esprit, ça?
C'est sûr que financièrement, ce serait bien. À chaque année, c'est un défi pour moi d'être aventurier, conférencier. T'sais, l'Antarctique a coûté 150 000. puis ça fait coûter beaucoup plus que ça.
Ah ouais.
Mais parce qu'à un moment donné, j'ai accroché mon bouton « Venez me chercher
».
Puis ça coûtait 250 000 si ma blonde disait « Ok, allez le chercher. »
Oh mon Dieu.
Elle dit « On va attendre. » Mais
Oui, c'est ça. Je ne veux pas perdre notre maison, on va attendre un petit
peu. Oui, non, mais de toute façon. Puis encore l'année passée, c'était 60 000 mon expédition. Puis je me dis « Ok, comment je vais faire? » Mais j'ai pris la décision dans ma vie que jamais l'argent va m'empêcher de faire ce que je veux faire.
Ok.
L'argent, ça se trouve. Est-ce que ton projet a du sens? Moi, je suis à la recherche de sens dans la vie. Si ce que tu fais a du sens, si tu as un pourquoi, le comment va venir. Puis ça fait 21 ans que je vis de ça, que je réalise des aventures, que je trippe, que, tu sais, tantôt je pars, je donne une conférence, je vais inspirer des jeunes secondaires 3 à Granby pour leur dire de ne jamais laisser personne décider pour eux ce qu'ils sont capables de faire dans la vie. Puis, tu sais, quand je le dis, là, silence dans la salle. Ne laisse jamais personne décider pour toi ce que tu es capable de faire. Mais une fois que tu as décidé, la seule personne qui va t'y emmener, c'est toi-même. Fait que fais tes devoirs. Bon, ils font comme... Regarde, si tu trouves une autre solution,
exact.
Une autre façon de le faire. moi c'est ça, c'est faire ses devoirs.
Je comprends.
Mais c'est pas... C'est faire ses devoirs, ça peut être plate, mais ça peut être le fun aussi.
Exact. Puis c'est pas nécessairement des devoirs. T'sais. Si ta job est le fun, tes devoirs vont être le fun aussi. Je pense que tous tes devoirs, mettons, de préparer une aventure, je pense que t'aimes ça aussi.
Ben oui. Puis la vie est une question de perspective. Comment t'ajustes ton truc? Comment tu te perçois? Comment est-ce que ça a du sens? Tu sais, faire de la survie, là c'est ce que j'ai commencé là, pas mal à temps plein cette année. C'est une aventure de survie qui est au menu. La survie, c'est inconfortable. Puis quand ça fait 7 jours que tu n'as pas mangé, puis que tu fais 12 heures de sport par jour, t'approches, là, c'est pas loin d'être souffrant. Mais là, il y a un univers de potentiel, de possibilités et de joie. Tu peux générer ta propre joie même à travers la souffrance. On est rendu là. T'imagines le pouvoir. Le pouvoir de choisir ta réaction par rapport à ce qui t'arrive, consciemment, de ne pas être victime de peu importe la situation, et le pouvoir d'aller puiser au fond de toi puis de faire jaillir une joie à n'importe quel moment. Je suis pas un Jedi, là.
Mais c'est quand même pas loin d'être Jedi, là, c'est
oui,
sûr. Là,
une
là.
Fois que t'es capable, à 100%, mais c'est là. Là, on est dans cet univers-là, puis ça me plaît.
Puis est-ce que tu crois, parce que, tu sais, toutes ces valeurs-là, puis c'est ces façons de penser, c'est cette conscience-là que toi, tu as trouvée en travers plein d'aventures dans le plein air, est-ce qu'après coup, tu te dis pourquoi c'est pas obligatoire à l'école? Pourquoi il n'y a pas de quoi à l'école? Est-ce que tu penses qu'il devrait avoir quelque chose à l'école relié à ça? Puis toi, mettons, ça serait quoi ta façon de faire avec ça?
Ça, là, tu sais...
Sûrement que tu y as pensé
souvent.
Oui,
mais c'est
là.
Tellement la base. Mm-hmm. Oui, tu sais, j'utilise beaucoup l'image d'un arbre, mm-hmm. tu sais, pour que ça soit simple. La motivation, c'est le tronc de l'arbre de la réalisation. La motivation, c'est le tronc. Hein? Puis qui mène, quand tu as la motivation, vers l'action. L'action, c'est les branches. Okay. Qui donne la réalisation? La réalisation, c'est le feuillage. Puis quand on regarde un arbre, ben on voit le feuillage, on fait comme « Ah, oh, wow, bel arbre! » Oui. Puis on peut regarder toutes les plus grandes réalisations. Mm-hmm. Ça peut être un groupe de rock'n'roll, tu regardes le carrière, tu fais comme « Wow! Mm-hmm. » C'est radieux, c'est un arbre extraordinaire.
Ouais.
Mais si la motivation, c'est le tronc de l'arbre de la réalisation, c'est quoi ses racines?
Mm.
Les racines de la motivation, là, c'est la confiance en soi puis l'estime de soi.
Mm-hmm.
La confiance en soi, c'est le sentiment d'être capable. L'estime de soi, c'est le sentiment d'être valable.
Mm-hmm.
Donc, idéalement, il faut que tu te sentes valable pour te sentir capable. Donc, petite puis grande racine.
Mm-hmm.
C'est une image, tu sais. Puis je sais puissant, que... mais c'est simple.
Mm-hmm.
Si c'est pas simple, c'est pas la bonne solution. Bon, mm-hmm. ça, c'est une image simple. Si je te le décortique comme ça, puis j'utilise l'antidote, mm-hmm. donc c'est une flèche montante,
oui.
Qu'on va mettre ici en bas.
Oui, exact, en montage.
L'antidote, c'est l'art d'avoir des projets
ouais.
et les diviser en petites étapes simples pour les rendre facilement réalisables.
Mm-hmm.
Si ton projet te semble impossible, moi, je suis capable de te le décortiquer un petit peu pour te dire, OK, attends une minute, est-ce que tu es motivé? Est-ce que ça a du sens? Comment tu fais pour bâtir ta confiance?
Mm-hmm.
Parce qu'on peut la bâtir, notre confiance.
Okay.
Moi, je connais deux façons. Par notre environnement. C'est sûr que s'il y a du monde autour de toi qui te dit, vas-y, t'es capable, lâche mm-hmm. pas. Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont encouragé. Ça aide. Si tu as un bon environnement, si tu as les bons outils.
Mm-hmm.
Ça, c'est bon, l'environnement. Puis la deuxième façon, ben, c'est d'avoir des défis.
Mm-hmm.
À chaque fois que tu réalises un défi, tu gagnes la confiance.
Mm-hmm.
Mais tu sais, tu peux pas le calculer. Tu peux pas dire j'ai couru 5 km aujourd'hui, j'ai gagné 0.1% de confiance en moi-même. Non! Mais il faut que tu le saches mm-hmm. puis que tu y crois.
Ouais.
Puis à un moment donné, ben d'un pas à l'autre, à l'autre, à l'autre, ben tu finis par courir un marathon.
Exact.
Ouais. Et là, t'as l'étiquette, j'ai couru un marathon, je suis marathonien.
Ouais.
Puis ça peut passer par tous les domaines. T'sais, si t'as eu la course, fais d'autres choses.
Exact. Mais tu sais, je trouve ça intéressant, excuse-moi, t'as coupé la confiance, parce que moi, ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que, en tout cas, j'en ai parlé souvent à Guillaume, justement, tu sais, de confiance, puis... On dirait dans ma tête, tu peux pas tant builder de la confiance en te regardant dans le miroir en mm-hmm. te disant j'ai confiance, je suis bon, j'ai confiance.
Ouais.
C'est comme, ok, ça va, tu vas être de bonne humeur.
Ça peut avoir l'effet contraire.
Exact, mais après ça, tu vas le faire, t'es pas bon, t'es là, ah, oh, c'est dans le fond. Moi puis mon partner, on appelle ça de la confiance en siromousse. Fait que c'est comme, t'arrives, puis n'importe quoi qui frappe ta fake confiance, tu t'écroules, tu sais, parce que tu te dis, ah, moi, tout était basé là-dessus. Mais en faisant des choses, en accomplissant des défis, comme tu dis.
Fait qu'il y a des compétences.
Exact. Puis ça, c'est blindé, là, tu sais. Comme courir un marathon, c'est des faits, tu sais que t'es capable, mettons, que t'as passé par chaque défi. Fait que là, t'es là, je l'ai fait, puis je sais qu'avec du travail, je serais capable de le refaire. Fait que ça, dans ma tête, c'est de la vraie confiance. Puis là, ton mur de confiance devient béton, là, tu sais. En tout cas, je trouvais ça juste intéressant.
Puis tu sais, c'est tout des étapes. Ton podcast,
mm-hmm.
quelqu'un qui va écouter ça va regarder un invité qui l'inspire puis qui va dire ah, OK, voici mm-hmm. une façon de faire. OK, voici les étapes qui ont passé. Je suis sûr que quand tu écoutes le podcast de Mylène Paquette, Mylène, elle a eu un parcours phénoménal.
Mm-hmm.
Phénoménal. Puis mm-hmm. tu sais, je pense qu'elle l'a dit elle-même, sa plus grande réalisation, c'est pas la traversée de l'Atlantique. C'est d'avoir continué à croire à son projet. Tu sais, moi, je me souviens, là, on s'est rencontrés avant qu'elle parte à l'Atlantique. Puis, il y a une fois, j'étais allé la voir. On a dîné ensemble. Puis elle était rendue qu'elle mangeait des crêpes parce que les crêpes, c'est ce qui coûtait le moins cher.
Oui.
Tu sais, je veux dire, elle s'était cassée le poignet, c'était pas évident. Dormir chez sur le sofa d'un ami. Respect.
Exact.
Respect. Mais tu sais, bon, un pas à la fois, puis elle continue à croire à son projet, puis
vraiment,
boum.
Vraiment, vraiment. Mm. En tout cas, je trouve ça, quand elle me racontait qu'elle allait dans les épiceries, puis elle était capable de voir les prix qui sont en bas de 10$, mais que c'est pas le bon prix. Si c'est pas le bon prix, tu l'as gratuit. Mm. Elle était la meilleure, elle disait, elle se faisait aussi donner à travers l'hôpital aussi, puis elle se faisait donner les restants des patients qui mangeaient pas. J'étais comme, c'est fou, tu sais, d'avoir continué. Fait que, no shit, que pendant l'aventure, elle était résiliente, tu sais. Ça s'est bâti depuis, je sais pas, ça a pris 4 ans, mettons, tu as organisé ça.
Voilà.
C'est complètement fou.
Je m'intéresse à la survie. C'est la capacité à l'être humain d'avoir du succès et du bonheur dans la vie.
Mm-hmm.
La survie, moi, je le fais dans le bois, c'est une métaphore. Tu sais, mais quand on parle de peur, quand on parle de doute, quand on parle. C'est toute la même affaire.
Mm-hmm.
Fait que les compétences que tu peux acquérir en faisant de la survie dans le bois, ça peut servir à tout dans la vie. Mais c'est ces images-là que moi, j'aime projeter puis dire, ben regarde, t'as le choix. Hein?
Mm-hmm.
Tu peux t'écraser puis broyer. Puis dire, oh, je suis pas né dans le bon corps ou dans la bonne vie. Ou dans...
ouais. Être une victime, en guillemets.
Ou te relever.
Mm-hmm.
Puis dire, OK, je serais peut-être pas président des États-Unis, mais moi, il y a ça qui donne du sens dans ma vie.
Mm-hmm.
Puis à partir du moment que tu fais un premier pas, un autre pas, un autre pas, mais là, tu tombes dans une spirale ascendante. Puis tu rencontres du monde qui ont le goût de t'aider parce que tu les inspires, parce qu'ils trouvent ça le fun, parce qu'il y a enfin un jeune qui a un projet. Parce qu'on va se le dire, là, tu sais, les chialeux, là, qui a le goût de se tenir avec des chialeux?
Personne.
Fait que là, t'es dans la spirale descendante.
Exact.
Puis plus que ça va mal, plus tu chiales. Puis, tu sais, si c'est la faute des autres, pose-toi une question.
Exact.
Pose-toi une question.
Puis, en tout cas, je trouve ça tellement intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais il y a un autre sujet que je voudrais vraiment parler. C'est c'est une expédition en Antarctique. Puis, j'ai reçu Caroline Côté, qui était assise exactement à la même place que toi. Elle venait de revenir, là, ça faisait 3 mois qu'elle revenait de l'Antarctique. Elle était complètement brûlée du visage à cause du soleil. OK, j'ai trop de questions par rapport à ça. Premièrement, ça a été quoi la chose la plus dure pour toi dans l'Antarctique? Ça peut être dans la préparation, pendant, ça peut être après.
En Antarctique, à un moment donné, moi, ma plus grande peur dans la vie, à ce moment-là, mettons, c'était de ne pas être là pour les personnes que j'aime si jamais ils ont besoin de moi.
Mm-hmm.
Bon, là, je suis tellement profond en Antarctique, là, que je réalise que si je veux retourner à la maison parce qu'il y a un problème, ben je serai pas là en 3 semaines.
Mm-hmm.
Puis ça va coûter 250 000. fait que, tu sais, c'est devenu très, très lourd de sentir que je venais de perdre le contrôle, je venais de perdre, tu sais.
Mm-hmm.
Puis j'ai fini par me dire, parce que j'ai un ami aventurier, lui, il est parti en expédition, puis quand il est revenu, ses deux enfants étaient morts de 2 causes différentes. Je me disais, et si ça m'arrivait moi? Puis j'ai vraiment plongé à travers ça, j'ai touché le fond.
Mm-hmm.
Puis après avoir touché le fond, mais là, je me suis remis à remonter. Puis j'ai fait, en gros, là, si je résume, là, j'ai fait la paix avec la vie. T'as accès à un bonheur supérieur, pas quand t'aimes ta vie, mais quand t'aimes la vie. Aimer sa vie, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui change de ta vie, genre la maladie, la perte d'un être cher, ça se peut que tu n'aimes plus ta vie. Aimer la vie, ça veut dire aimer la vie et tout ce qu'elle inclut, ou du moins accepter tout ce qu'elle inclut. Et là, il y a un char d'affaires qu'on ne veut pas penser, qu'on ne veut pas imaginer, qu'on veut pas, on veut pas la maladie, on veut pas la douleur, on veut pas la mort, mais la mort fait partie de la vie. Bon, j'ai l'impression en Antarctique que j'ai fait un peu... pas totalement, mais un peu la paix avec ce que la vie est réellement. Puis je continue avec ça, je mets ça dans mon bagage, puis ça m'aide à tous les jours.
C'est tellement fou. T'avais fait combien de kilomètres en Antarctique?
4400.
Puis t'étais en ski, elle se faisait du kite, au fond.
Ouais.
Puis Caroline m'a demandé de te demander combien de kilomètres t'as fait ta dernière journée ou ton dernier straight. Parce qu'elle m'a dit que t'es un des meilleurs kiteurs du monde, dans le fond. Ça ressemblait à quoi ta dernière journée? Puis pourquoi?
J'ai fait 627 km en 25 heures. Tu sais, le trip à Caroline, là, la moitié de son trip, je l'ai fait en 25 heures. Mais moi, j'avais le vent de dos. Là.
Ouais.
mais ça se compare pas. Caro a mon estime totale par rapport au fait qu'elle le fait sans quête. Puis là, elle m'a approché, elle dit tu pourrais me montrer à faire du kite. J'ai dit oui, c'est un cadeau, empoisonné. Ouais. T'sais, parce que, tu sais, une fois que tu as fait du kite, il y a des choses que tu peux plus t'imaginer faire. T'sais. C'est une journée de 20 km.
En ce qui te font, toi, ça fait pas de
moi,
sens.
Moi, c'est non.
Je comprends. La Caro est tellement hot, là. Ouais. C'est hot. Elle est tellement, on dirait, elle est tellement une source d'inspiration, je trouve, là. T'sais. Puis quand je l'entendais parler, je me disais, c'est fou. On dirait que. Spécialement, mettons, pour plus les jeunes filles, parce qu'ils peuvent plus s'associer, mettons, mais pour tout le monde, c'est tellement une source d'inspiration extraordinaire. Ouais.
À partir du moment que quelqu'un décide de faire le move, moi, ma plus grande inspiration, c'est pas les aventuriers. C'est parce que c'est un domaine que je connais. Puis, c'est une situation qu'on a choisie. On a beau se mettre en petite boule des fois pour dire oh, « c'est difficile ». C'est parce que tu l'as choisi. Okay. Victime de nos propres choix. Moi, ce que j'aime, c'est de voir quelqu'un qui sait qu'il y a des faiblesses puis qui va quand même essayer puis avancer. Puis ça, c'est dans toutes les sphères. C'est de voir une mère de famille dire ben OK, je vais prendre soin de ma santé, là. Je vais prendre un peu d'amour que j'ai pour les autres, puis je vais m'en donner à moi.
Ça t'inspire.
Ça. Ouais.
C'est vraiment impressionnant. Puis pendant ton dernier aspect concernant l'Antarctique, quand tu as fait ton dernier 25 heures de suite, pourquoi tu t'es dit pourquoi tu t'es pas arrêté puis tu as continué? Tu n'as pas continué le même pace que tu avais. Pourquoi là, tu t'es décidé, let's go?
C'est parce que je voulais battre le record Guinness, la plus longue distance faite en 24 heures.
Okay.
C'était 595 km fait par Éric McNeil-Landry, Sébastien Copeland. Puis là, j'avais 630 km de lousse. Fait que, tu sais, je savais que c'était possible. J'ai fait en 24 heures 594 km.
Oh, shit.
Puis je suis rendu une crevasse. Il me reste une demi-heure, mais je sais que pour rouler mon kite, contourner la crevasse, puis tu sais, fait que pour moi, ça s'arrêtait là. Fait que, c'est ça.
T'étais-tu triste de pas.
Ah, j'ai ri. J'ai ri parce que le record Guinness, ce n'était qu'un objectif. Le plaisir, la réalisation, le succès, c'est dans chacun des pas. Puis moi, j'ai trippé durant ces 24 heures-là. C'est marqué au fer rouge dans mon esprit. Chacune de ces minutes-là, puis au final, on dirait que ça a duré une minute, là, mais non, je garde ça. Je garde ça de même. Je prends pas le record. Je le prends de même parce que c'est une expérience extraordinaire.
On dirait que... Est-ce que tu penses que si... Parce que toi, t'es super en forme, t'es super expérimenté. Est-ce que tu penses que, mettons, toi, t'es le guide, puis, mettons, moi, j'ai des bases très normales, mettons, de camping. Je fais du camping d'hiver, mais tu sais, c'est comme sans plus. Tu me dis, Néri, dans 2 mois, on s'en va en Antarctique. Tu penses-tu que c'est faisable d'apporter quelqu'un ou c'est trop tough? T'sais?
Ça dépend qui. Je connais des entrepreneurs qui ont développé des outils extraordinaires dans leur vie d'entrepreneur. Puis tu prends ces gens-là, puis tu les mets dans un paysage aventurier, puis ils performent très bien. Parce que c'est des êtres humains accomplis dans un autre domaine. Ils ont juste comme appliqué leur façon de faire. Et leur confiance, ils l'ont bâti. Fait que oui, ça m'est arrivé d'emmener... pas en Antarctique, mais d'amener des gens faire des exploits extraordinaires avec très peu d'entraînement. C'est juste de leur guider. Puis, tu sais, pas de niaisage. Là. Si je te dis, ben fais ça de même pour telle raison, la personne, elle le fait, OK.
C'est parfait.
Après ça, ben là, tu sais, c'est l'expérience d'arriver à faire face aux scénarios imprévus. Là, ça prend plus de temps avant d'arriver à ça, mais tu sais, il y a des gens qui ont une résilience remarquable.
Puis mettons, comment quelqu'un pourrait dire « OK, je veux devenir aventurier », c'est quoi qu'il faut faire?
Mais attends, là, je veux devenir aventurier. Tu veux-tu être aventurier conférencier? Tu veux-tu juste être aventurier? Mm-hmm. Tu veux-tu... Tu sais, moi, un jeune qui dirait, je veux faire pareil comme toi dans ma vie.
Exact.
Bon, ben, je dirais, va étudier en communication parce que ma job, c'est une job de com.
OK.
Tu sais, là, on fait une entrevue.
C'est vrai.
Il faut que je m'exprime de la bonne façon. Il faut que je sois capable d'emmener mes points, mes idées. Mes, puis quand je rencontre mes commanditaires, c'est de la communication. Puis quand je rencontre, je donne des conférences, c'est de la communication. Mm-hmm. Quand je vois les médias, c'est de la communication. Quand je suis en aventure puis je me filme, c'est de la com. Fait que tu sais, après ça, ça dépend. Tu veux-tu faire toujours de l'exploit? Faut que tu laisses aller une part d'exploit si tu veux faire de la vidéo.
Mm-hmm. Parce que clairement, t'as plus de stock, t'as plus de chemin. Tu reviens tout le temps sur tes pas.
C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas... Mais ouais, chacun trouve son chemin avec ça, mais tu sais, à partir du moment que le projet a du sens...
Ouais. C'est ça. C'est tout part du sens, dans le fond. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu as eu de la difficulté au début à avoir la communication? Est-ce que c'était venu facile pour toi d'être bon en communication? Ou...
Il y a une part de naturel. Puis j'ai mes angles morts. Là. J'ai mes angles morts. Il était un temps où est-ce que... moi, je suis né d'une famille où est-ce qu'on se racontait des histoires.
Ouais.
Fait que, tu sais, le storytelling, les punch, avoir un bon punch, ça, c'est bon.
Okay.
mais souvent, il y avait une part d'exagération.
OK.
Fait que dans les premières années, je me suis découvert un désir d'être le plus clair possible, sans exagération.
Mm-hmm.
Tu sais, si dans ta tête, la vague a 10 pieds, ben, à 10 pieds. Puis,
dis pas 15, là.
Pas 12, puis bientôt 15, puis tu sais, bon. Parce qu'après ça, c'est pas ces chiffres-là qui vont rendre l'histoire intéressante, c'est l'émotion que tu vas y accorder.
Mm-hmm.
Je peux te dire... Peut-être que la vague avait 10 pieds, mais dans ma tête, elle avait 40.
Oui, c'est ça.
Puis ma vie, elle est peut-être... Là, je te parle d'émotion.
Mm-hmm.
Fait que c'est là que ça devient intéressant. Puis c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui ont vu mes conférences. J'ai parlé de cette vague-là. Puis ils se souviennent très clairement de l'avoir vue. Seul problème, c'est qu'il n'y a pas dans la conférence la vague.
Ah ouais.
J'ai aucune image.
Mm-hmm.
Fait que ça vient de leur tête.
Mm-hmm.
Ça vient même dire, OK, tu l'as bien compté.
Un bon storyteller.
Ouais.
C'est tellement fou. Puis, exemple, ta prochaine XP, là, tu vas faire du repérage. Qu'est-ce qu'il faut que tu prépares, mettons, vas-y pas trop en détail parce que je pense qu'on pourrait passer des heures là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut que tu prépares pour un XP en Afrique? C'est quoi les steps, mettons?
Non, mais si là, c'est rendu, surtout en rivière, je suis rendu au sommet de mon art.
Mm-hmm.
Ça va me prendre une heure, je vais prendre mon baril, je vais domper du stock dedans, je vais regarder une liste pour m'assurer que j'oublie pas des affaires, parce que j'oublie toujours des affaires.
OK.
Puis ça va être fini. Tu sais, ma dernière expé au pôle d'inaccessibilité de l'Amérique du Nord, il y avait 2 semaines de kayak. Ça a été une heure chez nous préparer mon stock. Là, j'ai fait 1 mois et demi d'expé, puis après ça, je sautais dans le kayak une journée. Bon, ben, on arrêtait à l'épicerie. J'ai fait une demi-heure d'épicerie. Puis ça s'est résumé pas mal à ça. Là.
Ouais.
2 heures de préparatif, kayak était plein, puis j'étais parti, puis j'étais confiant 100% d'être parfait dans tous mes équipements. Tu sais, je sais le nombre de millilitres de gaz qu'il faut que j'aille. Puis tu sais, bon, fait que là, c'est là que ça devient fun.
Puis qu'est-ce que tu apportes comme nourriture? Tu arrives à l'épicerie, qu'est-ce que tu prends?
D'abord, tu veux de la nourriture que tu aimes, que tu as le goût de manger.
Oui.
Les calories ne sont pas un problème. En fait, ce que tu veux, c'est contraire à ce qu'on fait d'habitude dans la vie. Tu veux le plus de calories possible.
Mm-hmm.
Donc, la nourriture la plus calorifique, c'est le gras. Donc, tu veux le plus de gras possible. Puis, si t'aimes le chocolat, moi, j'ai aucun problème à acheter 300 grammes de chocolat par jour d'expédition. Ça fait des kilos. Puis après ça, j'ai certaines techniques qui me permettent d'aller chercher des vitamines, des minéraux d'une façon, entre autres. Du lait maternisé.
Ah ouais?
Tu sais, pour les bébés, bébés naissants. Là,
ouais.
C'est super calorifique. C'est bourré de vitamines et minéraux.
Ah ouais?
Ça pue, mais ça goûte bon.
OK.
Fait que tu pars avec ça. Ça, c'est un beau truc.
C'est vraiment cool. T'as-tu déjà été dans un scénario que t'as vécu un problème, que ça se peut que ce soit de la nourriture, ton équipement, mais que tu t'es dit, Non, là, ça n'a pas de sens. J'ai donné un exemple. Pendant le podcast avec Caroline, justement, son ski avait pété en Antarctique. Puis là, c'était comme... Mm-hmm. Ça savait plus quoi faire. Son pied a commencé à... Elle n'est pas capable de réchauffer son pied. Elle a même enlevé de sa botte. Elle a dormi son pied en dehors de son sleeping. Est-ce que toi, il y a déjà arrivé à une histoire comme ça dans toutes tes aventures confondues que tu t'es dit, là, ça a passé proche?
Plein, à chaque fois.
Oui, c'est ça.
En Antarctique, à un moment donné, dans le blizzard, j'ai levé dans le ciel, puis la corde entre mon traîneau et moi s'est cassée. Le temps que je rétablisse, j'avais perdu mon traîneau. Il était pas loin, tu sais, mais c'est juste que là, je suis dans le blizzard, puis je suis à des centaines de kilomètres de l'être humain le plus près. Là, tu te questionnes sur tes choix. Puis je savais pas combien de temps la blizzard prendrait pour enterrer mon traîneau. Mm-hmm. Ça devenait problématique comme situation. Là, j'ai eu peur.
Puis t'as-tu retrouvé, est-ce que t'as commencé à marcher de tout bord pour le retrouver? Qu'est-ce que t'as-tu attendu? Qu'est-ce que t'as fait?
Ben d'abord, j'ai commencé à essayer de me promener en quête, ouais, parce que c'était plus rapide, mais c'était une mauvaise idée parce que tu peux t'éloigner.
Ouais, tu vas tellement vite.
Fait que j'ai remarché les traces que j'ai laissées, mais l'effort mental pour ne pas céder à la panique à ce moment-là, là. Ok, tu te concentres du côté logique, parce que logiquement, il y a des choses que tu dois faire qui peuvent te sauver la vie. Mm-hmm. Fait que souvent, ces scénarios-là, c'est des scénarios où est-ce que, avec l'expérience, je suis capable de bien réagir, mm-hmm, puis de trouver mon chemin. Je cède difficilement à la panique.
Mm-hmm. Ok. Parce que tu as un mental de fer là, maintenant. Là,
ouais, mais il y a aussi y a l'adrénaline, mais puis tu sais. Pour moi, dans ma structure mentale, mm-hmm, je sais que j'ai un grand pouvoir qui peut mener à une grande faiblesse. Il y a une part de la peur que les gens en général ont que moi, j'ai pas.
OK. Est-ce que tu penses que tu es né comme ça ou c'est avec le temps que tu as développé?
Non, je suis né comme ça. Ouais.
OK.
Tout jeune, je grimpais dans des arbres. Mm-hmm. Puis en fait, je sautais d'un arbre à l'autre. Puis tu sais, mon record, c'est 19. Là.
OK.
Puis pour moi, il n'y avait aucun risque à faire ça, là, mm-hmm, de swinguer un arbre à 50 pieds jusqu'à temps qu'il touche l'autre arbre, sauter dans l'autre arbre, continuer. Donc, pour moi, progresser sur un glacier crevassé, s'il y a une corde qui me tient, c'est pas un problème. Mais ça peut devenir un super pouvoir qui peut te tuer. Tu sais.
Mm-hmm.
Donc, j'ai appris à gérer ça. Pour l'instant, ça va.
OK. Pour l'instant, ça va.
Ouais, ben,
ça va toujours aller.
Ben,
on espère. Est-ce que, tu sais, quand tu vois des aventuriers américains qui achievent des gros records, ben, c'est pas, je dis américain, c'est de n'importe quelle place dans le monde, est-ce que des fois, tu as comme le côté compétitif de dire, ah, moi, je vais essayer de la battre ce record-là, ou ça te passe même pas à l'esprit?
Ça dépend de l'occasion.
OK.
Ça dépend de l'occasion. Avec Bruno Pierre Couture, on a fait l'ascension du Mont Logan par l'arête ouest.
OK.
C'était la deuxième ascension de l'histoire, du moins qu'on a trouvé.
Okay.
On enchaînait avec l'ascension de la face nord du Mont Saint-Elias, qui pour moi est une réalisation extraordinaire. Je pensais qu'on serait célèbre en revenant de là.
Ouais.
C'est quand même la deuxième plus haute montagne au Canada et aux États-Unis. La face nord, je pense que c'est la cinquième plus haute en Amérique du Nord.
Okay.
C'était big, là. Ouais. Moi, je me disais, wow! rien. Personne. Puis tu sais, j'étais au Festival du film de Banff, j'ai parlé à un expert de montagne qui a fait, mm-hmm, comme, OK, vous avez enchaîné l'arête ouest du Mont Logan, puis la face nord du Mont Saint-Elias. Moi, j'ai fait ma vie à répertorier les affaires de même, puis si vous avez fait ça, bravo.
That's it.
mais tu sais, peu importe,
mm-hmm,
je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi, puis mm-hmm, là, je me suis dépassé, puis j'ai vécu, mm-hmm, une aventure exceptionnelle.
Mm-hmm. C'est vraiment... on dirait que ça paraît que tout devient du sens.
Mm.
On dirait que c'est profond, c'est ancré profond en toi. Mm. Ça. Est-ce que... Là, on n'en a pas parlé. Je voulais en parler au début, mais là, je viens d'en parler. Je viens d'y penser. Tu étais dans l'armée, puis tu étais un des soldats les plus jeunes du Canada, si je me trompe pas, à ce moment-là. C'est comme... Pourquoi tu voulais aller dans l'armée? C'est quoi ton...
Parce que j'écoutais Rambo.
OK.
je voulais rentrer dans l'armée, comme Rambo.
Mm-hmm.
Puis là, j'ai appelé l'armée, qui m'ont dit, ben nous, il est trop tard, notre période de sélection a déjà passé, mais il y a la marine, tu sais, eux autres, ils finissent plus tard dans l'année. Fait que j'ai appelé la marine, j'ai passé les tests, puis ils m'ont engagé, puis ça se donne que je suis né 4 jours avant la date limite.
OK.
Fait que oui, je suis rentré au camp de recrues des Forces armées canadiennes, j'avais 16 ans.
Puis tu voulais plus aller à l'école à ce moment-là?
Non, je voulais continuer, j'étais inscrit au cégep. Okay. C'est juste que la vie dans l'armée était tellement plus intense que tout ce que j'avais vécu que pour moi, ça devenait intéressant de vivre intensément avec l'armée.
Mm-hmm.
Puis j'ai failli transférer dans la régulière. Ils ont juste trop pris de temps à traiter ma demande. Oh, puis ouais. Entre-temps, je suis devenu cahier de sécurité, puis j'ai connu l'intensité dans des sports, puis... Fait que j'ai comme bifurqué vers l'aventure plus.
Je comprends. Parce qu'est-ce que sinon, si mettons, ils auraient fait ça plus vite, là, et leur paperasse, t'aurais-tu resté dans l'armée toute ta vie, tu penses?
Je serais un adjudant, maître de je sais pas quoi.
Puis t'as-tu gardé de quoi de ton séjour dans l'armée que encore aujourd'hui tu gardes avec toi? Tu as une genre de discipline?
Ma femme.
Ah, wow!
On s'est rencontrés dans la marine, ouais.
Très hot. Puis vous avez quitté en même temps l'armée ou...
Ben, dans les mêmes périodes.
Dans les mêmes périodes, je comprends.
Mais tu sais, c'est la réserve navale, donc on a tous les deux fait à peu près presque 10 ans.
OK. Ouais. Je comprends. Ça, c'est vraiment, vraiment inspirant. J'ai, avant qu'on finisse, une dernière section que je fais avec toutes mes invités. Okay. C'est des questions que tout le monde y passe, pas le choix. La première question s'appelle la question parfaite. Si tu pouvais t'asseoir avec 3 personnalités, que ce soit des gens connus, des entrepreneurs, des aventuriers, un gars, une fille, mort, vivant, qui ça serait?
Moi, Barack Obama, ça me plairait.
OK.
Ouais, j'aimerais beaucoup Barack Obama. Serge Bouchard.
OK.
Moi, cet homme-là, là, j'aurais voulu jaser mille affaires.
OK.
Je me berce avec sa voix. Là.
OK.
Ouais, ça serait pas mal ça.
Pas de troisième, t'as pas quelqu'un d'autre, une troisième personne.
Oh, ben arrête là, tu sais.
T'as pas le choix, c'est 3 personnes.
Ok, 3.
C'est 3.
Ok. Nelson Mandela, j'ai visité sa cellule en Afrique du Sud.
Ah ouais. Ok, fait que c'est vraiment un bon top 3. Ça a été une conversation inspirante.
Ouais, mais c'est standard un peu.
Ben pas tant. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais comme t'as pas dit Elon Musk ou Jeff Bezos, tout le monde dit ça ici dans ce podcast.
Ah oui?
Ouais, je te jure. Ben, je reçois beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme, j'aime aussi autre chose avec Elon Musk, mais il y a bien d'autres mondes.
Ouais, je suis pas sûr qu'on s'entendrait.
Ah ouais. Deuxième section, réponse rapide. Okay. Fait que je te dis des questions, tu réponds le plus rapidement possible, pas d'explication. Okay. Ton projet le plus marquant?
Voir des enfants.
Okay.
OK, mais si tu veux, je peux répondre aventure.
Aventure, mettons. C'est une excellente réponse, mais
okay, okay. Aventure aussi. Portée disparue au Yukon, ça c'est une aventure hallucinante, exceptionnelle, mais c'est très, très personnel, les raisons pourquoi dans le sens... C'est comment j'ai pu gérer mes émotions à travers ce trip qui était fou.
Ouais, ben juste pour, je l'ai dit dans l'intro, mais juste pour dire aux gens, c'est tu t'es fait dropper, les yeux bandés, un hélicoptère au Yukon, tu savais pas t'étais où, puis t'avais du stock qui rentrait dans une gourde d'eau de métal.
C'est ça. Puis il fallait que je trouve mon chemin à civilisation. Donc, on parle d'un confort extrême, puis ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi cette fois-là à gérer parfaitement mes émotions, si bien que le corps oublie la souffrance. Ce qui retient, c'est l'émotion. Et j'ai tellement bien géré mes émotions à travers ce trip-là que quand j'y repense, pour moi, c'est une bulle de bonheur.
Ah ouais.
Mais dans les faits, c'était une bulle de souffrance. Mais la souffrance, on l'oublie. C'est comme la femme enceinte qui accouche puis qui va dire « ça a été la plus belle journée de ma vie ». Ma femme a dit ça. Non, moi, regarde, j'étais là, là.
C'est la journée que t'as eu le plus mal.
Moi, te le dire, là. C'est faux.
Ouais, c'est fou ça. Puis, tu sais, au Yukon, il y a une population de grizzlies. C'est vraiment concentré. T'as-tu croisé un grizzly? T'as-tu eu une interaction avec des animaux où tu t'es dit, oh shit, ça, il faut que je fasse attention? Ou...
Pas tant. Puis après ça, tu sais, c'est dans l'interprétation aussi. C'est sûr que quand t'entends des loups hurler, ça peut te glacer le sang, puis tu peux penser, ils s'en viennent me chercher.
Ouais.
C'était pas mon cas. Beaucoup de traces. Mais tu sais, ça prend toujours 2 mois avant de se fondre dans la nature. Puis pendant ces 2 mois-là, tu vas avoir des crottes, des traces, des... Puis ils sont là. Eux, ils te voient.
C'est ça.
mais tu ne vois pas.
Mm-hmm.
C'est un ombrage en deux arbres. C'est marquant en expédition. À partir d'un certain moment, tu commences à voir les animaux. C'est comme ça.
Puis, est-ce que ça a duré combien? 10 jours, ça a duré avant que tu retrouves la civilisation?
11 jours.
Et t'as mangé quoi pendant ce trip-là?
Ah, j'ai tué un porc-épic au 5e jour.
OK. Qu'est-ce qui a passé 100 jours sans manger?
Non.
5 jours sans manger?
5 jours.
5 jours sans manger?
Ouais, le plus que j'ai fait à date, c'est 7 jours.
Tabarnan.
Ça se fait bien. C'est pas.
Qu'est-ce que ça fait dans ton corps?
Ben, tu sais, quand t'as mal à la tête, que t'as mal au ventre, puis que t'es affamé, là.
Ouais.
Bon, c'est bien de savoir que ça va jamais plus loin que ça.
Ah, OK.
Après, ça va changer. Tu vas devenir un peu apathique, moins d'énergie, moins. Tu sais, t'es pas à 100%, t'es moins résistant au froid. Tu sais, bon, y a un paquet de conséquences à pas manger, mais dans les faits, avec l'expérience, on finit par faire son chemin à travers ça, puis bien le vivre.
OK. C'est intéressant. OK, on continue le segment. Là, on vient juste dire le projet plus marquant. Ton plus bel achat à vie?
Une bague.
OK.
Ah, là, tu veux qu'on aille aventure.
J'aime ça que tu dis toujours les deux.
OK. Quand j'ai découvert le Packraft, pour moi, ça a été une révélation. Là.
OK.
C'était un petit bateau gonflable. Ça, c'est génial.
Ouais.
C'est léger. C'est...
Ouais. Très hot. J'ai vu beaucoup d'aventuriers qui ont fait la traversée en Amazonie avec des Packraft. Ouais. Ça avait l'air cool. Un rêve secret?
Réaliser un vrai film.
OK. Ouais. Un vrai film. Un film de fiction ou un vrai film, mettons, documentaire, Netflix, mettons?
Film d'aventure, fiction.
OK. Ouais. Okay. Ta meilleure habitude de vie?
L'hydratation.
OK. Ouais. Bois beaucoup
d'eau. Puis ça a l'air niaiseux, là.
Ouais.
Mais ça m'a pris 2 ans avant de pouvoir dire je contrôle mon hydratation et ça fait partie de ma vie.
Puis il faut combien de litres d'eau par jour, mettons, si on va avoir une bonne hydratation?
Ben, ça dépend. En expédition, si tu pars avec... 6 litres dans le désert, considérant qu'il y a peut-être 2 000 litres qui va servir à te laver ou. C'est limite, c'est ça. C'est la limite, c'est 6 litres par jour.
OK.
Ouais. Mais puis après ça, en Antarctique, je faisais fondre de la neige pour 3 à 4 litres par jour. Puis on est à peu près dans ces eaux-là.
Puis en Antarctique, tu suais-tu ou non?
Oui.
Oui, fait que tu perdais quand même beaucoup d'eau.
Ouais, puis c'est très sec, fait que par la respiration aussi.
OK, ouais. Cool, dernière section avant qu'on finisse. Ça s'appelle Under ou Overrated. OK, fait que tu me dis si ce sujet-là est surévalué dans la vie. Fait que pour les gens, mettons, les gens ils trippent trop là-dessus. Ou tu comprends un peu le principe. Fait que je faisais un sujet, tu me dis Over ou Under.
OK.
OK. Les bouteilles d'eau nalgènes.
Over.
Nourriture lyophilisée.
Over.
Adidas, la marque.
Oh, très over.
Très over. Le pâté chinois.
Under!
Under, OK, OK. Les crocs, tu sais, les souliers crocs.
C'est under.
OK. Le café instantané.
Les deux,
c'est correct, c'est quand on va dire properly rated. Une couverture, tu sais, les couvertures de survie là, qui montent au ciel, là, tu sais,
ça c'est over.
C'est over, hein. Ça sert-tu vraiment?
Non, c'est n'importe quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est n'importe quoi.
Mettons-le, pour culture générale, quelqu'un tombe dans l'eau froide, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben, ne pas paniquer, là, c'est sûr. Là.
Mais une fois qu'on le sort.
Ouais, il y a toujours une phase où est-ce que ton corps va réagir très, très, très fort. Faut réussir à passer à travers ça.
OK. Mm. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? On sort de l'eau, qu'est-ce qu'on fait avec?
Ben, normalement, à l'action, tu vas être capable de maintenir ta chaleur.
OK. Okay. Je comprends.
Mais là, ça dépend de plusieurs facteurs.
Je
ne
veux pas donner des conseils aux gens qu'ils vont appliquer.
Mais tu sais, dire « allume-toi un feu », je te dirais « non, bouge ».
OK, je comprends. OK. Les réseaux sociaux, under ou over?
Over.
Les salons d'exposition de plein air.
Je ne saurais pas quoi répondre. C'est super cool.
C'est super cool. le festival de films de Banff.
Ça, c'est ultra cool. C'est over?
Under.
Under.
C'est under. Si c'est plus cool, c'est under.
OK. Under. Ben oui, c'est under. Ben oui.
Cool. Vraiment nice. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec moi. y a-tu quelque chose qu'on peut mettre en description? Y a-tu quelque chose que tu veux que les gens aillent voir plus que tout? Je sais que tu as ton film, Gamin professionnel. Y a-tu quelque chose de particulier que tu veux que les gens aillent voir?
Ben là, tu me lances sur une piste, là.
Vas-y.
Pour moi, Gamin professionnel, c'est le film qui m'a fait découvrir une des raisons pourquoi je fais ce que je fais.
OK.
Une de mes valeurs principales, c'est la liberté. À chaque fois que tu vas me proposer un choix, si ce choix-là m'amène plus de liberté, naturellement, je vais aller vers lui. Gamin professionnel a été un saut dans la liberté extraordinaire avec deux amis extraordinaires, avec qui n'importe quelle situation, à aller jusqu'à des situations potentiellement mortelles, devient drôle, devient vivable. Puis ça m'a fait comprendre aussi que la raison pourquoi je fais ce métier-là, puis une des choses qui fait qu'un être humain est heureux dans la vie, c'est sa capacité à garder l'enfant en lui ou en elle vivant. J'ai un ami, il est professeur. Il a gardé le gamin, lui, vivant, il est resté à l'école. Ça a du sens pour lui, tu sais.
Ouais.
J'ai une amie, elle est journaliste. Ben, quand elle était jeune, elle faisait quoi? Elle posait des questions, là. Elle gardait cette partie-là en elle vivant. Fait qu'en fait, si je peux inciter les gens à oser l'aventure et à garder l'enfant en eux vivant, à se questionner, à savoir qu'est-ce que cet enfant-là veut vraiment, je pense qu'on peut atteindre un plus haut niveau de bonheur.
Vraiment, c'est vraiment beau. C'est toute une façon de finir un podcast. Ben, merci beaucoup,
ça fait plaisir.
Fred. Fait qu'allez voir Gamin professionnel ou le site web de Fred. Il y a plein de choses vraiment intéressantes. Merci, Fred. Et bon succès dans toutes tes prochaines aventures.
Ben, ça fait plaisir. Merci de nous permettre de rencontrer des gens extraordinaires puis de me permettre de toucher des gens aussi.